et par actualité.
Bonjour et bienvenue à l'émission Les Paractualités du 29 mai 2018. Hélène Denis qui vous accompagne. Et en manchette aujourd'hui, le ministère des Transports du Québec a contacté le RAC pour une modification de la norme des signaux sonores. Un nouveau marché solidaire voit le jour dans Hochelaga-Maisonneuve. Entre musique et solidarité, 250 personnes marchent pour l'Alzheimer. Un homme en fauteuil roulant meurt frappé par un train. En entrevue, je reçois Yannick Brouillette, directeur général Fibrose kystique Québec, qui nous parle du mois de mai, mois de sensibilisation à la fibrose kystique, et aussi France Geoffroy, directrice artistique de la compagnie Corpuscule Danse, qui, elle, nous présentera 3D Diversité, un projet de médiation culturelle. Message du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec, le RAC, le ministère des Transports du Québec, MTQ, a contacté le RAC parce qu'une demande de modification de la norme des signaux sonores a été déposée. Cette demande vise à faciliter l'implantation d'un service rapide par bus en permettant d'installer plus d'un signal sonore à une intersection. Avant d'aller de l'avant, le MTQ nous a consulté pour savoir si le projet est sécuritaire et si celui-ci permet d'atteindre l'objectif, c'est-à-dire d'implanter des zones refuges qui serviront d'embarcadère et de débarcadère pour un projet de service rapide par bus. La permanence du RAC, le conseil d'administration ainsi qu'une personne ressource en provenance du RAM se sont penchés sur la proposition et se sont entendus pour répondre que la modification proposée permettrait d'assurer la sécurité des personnes ayant une limitation visuelle dans le cas d'une intersection normale puisqu'il est clairement indiqué que deux signaux sonores ne doivent jamais fonctionner simultanément. Cependant, elle ne permet pas d'atteindre l'objectif visé, soit de permettre d'installer des zones refuges en milieu de rue, puisque la proposition de modification n'oblige pas les villes à installer un signal sonore par section de rue. De manière concrète, ce que nous souhaitons, c'est qu'un signal sonore par section soit installé. Par exemple, il faut qu'un signal sonore soit installé du nord de la rue jusqu'à la zone refuge et qu'un autre signal sonore soit installé de la zone refuge jusqu'au sud de la rue. Dans le projet actuel qui a été déposé au MTQ, les concepteurs y ont pensé, mais si la norme ne l'oblige pas, rien ne nous garantit que les futurs concepteurs y pensent. Nouvelle tirée du journal Métro. Un nouveau marché solidaire voit le jour dans Hochelaga-Maisonneuve. Les Montréalais habitant dans un secteur qualifié de désert alimentaire dans Hochelaga-Maisonneuve ont désormais une alternative dans leur quartier. Le marché solidaire vient tout juste de voir le jour au coin des rues Adam et Joliette devant l'église Très Saint-Rédempteur. Le marché se veut une manière d'offrir une bonne offre dans les quartiers moins bien desservis du quartier. Au dire de Benoît de Perrelongue, le directeur général de la cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve, partenaire fondateur du marché solidaire, le désert alimentaire dans ce secteur est un réel problème. Derrière le marché, en plus de la cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve, on retrouve aussi plusieurs autres partenaires qui ont à cœur la vie de quartier. Selon M. de Perrelongue, l'idée germait depuis un bon moment déjà. Le marché solidaire se veut la suite logique de l'initiative Fruits et légumes de quartier. Mais maintenant, l'offre disponible est beaucoup plus riche. On y trouve donc, oui, des fruits et légumes, dont certains provenant des toits potagers de la cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve, mais aussi des produits laitiers, des produits secs, des huiles, des viandes et bien plus. Aussi, un service de livraison a été mis sur place dans deux plans HLM afin de répondre aux besoins alimentaires des personnes à mobilité réduite. Et en studio, il y a Yannick Brouillette, directeur général Fibrose Kystique Québec, puisqu'on est en plein mois de sensibilisation à la fibrose kystique, le mois de mai qui s'achève, mais on a des choses à se dire quand même. Bonjour, M. Brouillette.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la fibrose kystique en quelques phrases?
Oui, bien, la fibrose kystique, c'est la maladie génétique mortelle la plus répandue au Canada chez les jeunes enfants et les enfants et les jeunes adultes. C'est une maladie multisystémique, donc qui s'attaque principalement aux poumons, au système digestif, et c'est une maladie qui est dégénérative et pour laquelle, malheureusement, on n'a pas encore trouvé de traitement curatif.
Alors, c'est important de sensibiliser les gens et aussi de sensibiliser ceux et celles qui pourraient apporter de l'aide financière pour faire avancer la recherche. Qu'est-ce qui s'est passé de spécial au mois de mai?
Alors, on fait en mai un mois de sensibilisation, comme vous le dites, pour générer de la visibilité à cette cause-là. C'est une maladie rare, la fibrose kystique.
Ah oui?
C'est un bébé sur 3500 qui est atteint au pays, mais un bébé sur 2500 au Québec. Et lorsqu'on se rapproche du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un bébé sur 900.
Ah oui? Est-ce Alors, que vous savez pourquoi
c'est... C'est génétique. Lorsque les colons ont colonisé le Québec, c'est comme ça que ça s'est répandu. Les maladies génétiques, il y a toujours des souches là, qui sont où il y a plus de prévalence. Et au Québec, c'est là où il y a le plus de prévalence en Amérique du Nord. Alors, comme c'est une maladie rare, on a besoin du soutien de la population pour générer de la visibilité et aussi, évidemment, du financement pour pouvoir trouver un traitement à cette maladie-là.
Mm-hmm. Alors, vous avez fait pas mal d'actions là, pendant ce mois.
Effectivement, il y a eu des activités de toutes sortes pendant le mois de mai partout au Québec. Et la plus importante, c'était la marche faite de la fibrose kystique de l'histoire ancienne qui s'est tenue dans 7 villes différentes au Québec, notamment à Montréal, à La Ronde, et que ça a été un grand succès.
Un grand succès, tant mieux. Ça s'est passé dimanche. Il faisait nuageux, mais c'était parfait hein, pour
c'était
marcher.
C'était parfait, pas trop chaud, trop de soleil. Oui, c'est une belle journée. On a amassé plus de 300 000 $ au Québec. Alors, 300 000 $ qui vont être injectés dans notre mission de recherche, d'amélioration des soins et aussi de défense des intérêts et des droits des personnes qui vivent avec la fibrose kystique. Alors, c'est d'une importance capitale. Mm-hmm.
C'était pas la première édition, c'était pas la première fois que vous organisez une marche.
La 20e, 22e édition même au Québec, c'est la principale activité de financement.
Et est-ce que vous allez toujours agrandir le territoire? Parce que là, vous dites que ça s'est passé dans cette région du Québec. Est-ce que vous voulez en faire davantage?
Absolument. Et des marches ou d'autres activités, la communauté est très impliquée, surtout la communauté fibro-kystique. Mais on a des comités bénévoles de gens qui ne sont pas nécessairement touchés, mais qui veulent donner un coup de main, qui veulent donner quelques heures une fois de temps en temps pour soutenir des activités de collecte de fonds qui ont lieu, peu importe la région du Québec.
Mmh. Et à quoi ressemble la vie aujourd'hui avec le fibrose kystique?
C'est beaucoup mieux qu'avant. On a fait beaucoup de progrès dans les dernières décennies. Durant les années 60, un bébé qui naissait avec la fibrose kystique avait très peu de chances de survivre à l'âge de la maternelle.
Ah,
et aujourd'hui, l'âge médian de survie pour un bébé qui naît aujourd'hui, avec la prise en charge aujourd'hui, la qualité des soins aujourd'hui, on parle d'un âge médian de survie de 53 ans. Alors, imaginez le progrès qu'on a fait. Mais malheureusement, encore l'an dernier...
C'est quand même assez jeune pour mourir, hein? 53 ans,
mais
si on compare
avec
5...
Mais l'an dernier, la moitié des gens qui sont décédés de la fibrose kystique est âgée de moins de 39 ans.
Ah oui.
Donc, on a encore beaucoup de travail à faire et c'est une maladie qui est difficile. Ces gens-là ne sont pas toujours actifs dans la société. Ils ne peuvent pas toujours travailler.
Ils ont beaucoup de séances de clapping parce qu'il y a des mucus.
Une à trois heures de traitement par jour, tous les matins, tous les soirs. Une quantité impressionnante de médicaments. Et parlant de médicaments, il y a un médicament qui existe aujourd'hui qui est en train de révolutionner vraiment les traitements en fibrose kystique parce qu'au lieu de traiter les symptômes, on traite maintenant la cause de la fibrose kystique. Donc, c'est une innovation mondiale et malheureusement, au Québec, ce médicament-là qui est très onéreux n'est pas remboursé par la RAMQ.
Oh.
Alors, on a lancé une campagne de mobilisation qui s'appelle unipourlafk.ca où on demande à la population d'ajouter leur voix à la nôtre pour faire pression sur le gouvernement pour qu'on puisse avoir ce médicament-là remboursé et disponible pour toutes les personnes fibrokystiques pour qui il pourrait être bénéfique.
Mais pourquoi on ne veut pas le rembourser?
C'est un nouveau médicament. C'est un médicament qui est très dispendieux. Mm-hmm. On parle de 250 000 $ par année, par patient.
Ouais.
Et à ce prix-là, l'INES, qui est l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, qui évalue au Québec l'efficacité des médicaments, a jugé que le médicament n'était pas assez efficace pour que ça vaille la peine de le rembourser. Or, nous, on voit des histoires et on connaît beaucoup de gens qui ont la fibrose kystique oui. et qui, par différents programmes, notamment les essais cliniques, ont pu bénéficier du médicament, essayer le médicament. Et leur vie, là, un an plus tard, s'est complètement transformée. On parle de prise de poids, ce qui est très important, fibrose kystique, de moins d'exacerbation, donc moins d'infections, moins de séjours à l'hôpital. L'énergie qui revient, certains
juste
patients
beau,
ont
bon.
Retourné à travailler,
ah, oui.
leur vie va bien, ils se sentent bien.
Mais il faudrait que l'INES le sache.
L'INES, on est en train de monter de ce dossier-là
oui,
et
oui.
de leur amener plus de données pour qu'ils réévaluent. Et il va y avoir d'ailleurs une réévaluation du médicament cet été. Mais on a absolument besoin que la population se joigne à nous dans ces revendications-là.
Est-ce que il y a toujours beaucoup d'actions côté recherche?
Absolument. Et c'est d'ailleurs au Canada, un projet de recherche financé par Fibrose Kystique Canada qui a découvert le gène responsable de la fibrose kystique à la fin des années 80. Alors, les chercheurs en fibrose kystique au pays sont très actifs. On a plusieurs équipes de recherche au Québec qui sont financées. C'est grâce à la recherche si on a des nouveaux médicaments. On parle d'une centaine de médicaments fibrose kystique qui sont en développement ou en études cliniques en ce moment, ce qui est absolument exceptionnel pour une maladie rare, là, mm-hmm. qui a autant d'investissements. Ouais. Et la raison pour laquelle il y a autant d'engouement en recherche, c'est qu'on s'approche de la solution. On s'approche du traitement curatif. Alors là, on donne vraiment une vague là, d'efforts et d'investissements pour qu'enfin on puisse dire qu'on a maîtrisé cette maladie-là.
Alors, à vous entendre, il y a beaucoup d'espoir.
Il y en a.
Yannick Brouillette, directeur général Fibrose Kystique Québec, merci de votre passage à Canal M, puis on va vous suivre, on va vous réinviter.
Merci beaucoup
Bonne chance,
de l'invitation.
Bloc régional entre musique et solidarité, 250 personnes marchent pour l'Alzheimer. Musique, espoir et solidarité, la marche organisée pour la Société Alzheimer de l'Estrie a permis d'amasser plus de 32 000 $. Pour la première fois, une dimension musicale a été ajoutée à l'événement. Le porte-parole, Grégory Charles, en a profité pour chanter, mais aussi pour partager son histoire. Ses deux parents ont souffert de la maladie. Je partage mon expérience car la seule consolation aux difficultés qu'on a dans la vie, c'est de savoir que d'autres en ont. Et quand je dis ça, ce n'est pas que ça nous réjouit, mais plutôt parce que lorsqu'on entend l'expérience des autres, ça nous permet de nous faire une meilleure idée sur notre propre expérience, estime-t-il. Pendant près d'une heure, le chanteur a livré un témoignage vibrant sur son parcours de proche aidant. Il a mêlé musique, conseils et anecdotes devant les 250 personnes présentes à la basilique cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke. La plus grande réalité, c'est qu'il n'y a pas de statut pour les proches aidants. Il y a toute une réflexion de société à se faire là-dessus, ajoute-t-il. La réalité au Québec, c'est que plus de la moitié des proches aidants sont des mères monoparentales. C'était la première fois qu'on ajoutait cette dimension musicale à la marche de l'Alzheimer, souligne la journaliste à Radio-Canada et ambassadrice de l'événement Brigitte Marcoux. La musique, c'est une façon de garder le contact avec la personne atteinte. La musique, ça éveille les sens. Une nouvelle tirée du site de Radio-Canada, faire le tour du lac Saint-Jean sur une seule roue pour venir en aide à un enfant malade. Voilà le défi que vient de relever Pierre-Olivier Hudon pour offrir un bras robotisé à Vincent Gervais, un jeune de 17 ans qu'il n'a jamais rencontré. Pierre-Olivier Hudon de Trois-Rivières a pédalé sur une seule roue les 256 km autour de Piekouagami en 48 heures. Ce défi lui a permis d'amasser des fonds pour la campagne de financement du jeune Vincent Gervais, atteint de la dystrophie musculaire de Duchenne. « Je trouvais ça fort d'utiliser ma mobilité pour ceux qui n'en ont pas ou qui en ont moins. Une fois qu'il aura son bras robotisé, Vincent entend bien donner au suivant. Ce n'est pas la première fois que le monocycliste de 25 ans effectue un trajet au profit de la Fondation, le pont vers l'autonomie, qui aide à financer les bras robotisés. Il a déjà fait le tour de la Gaspésie et s'est rendu de Trois-Rivières à Philadelphie sur son vélo à une roue. Pierre Hudon compte rouler les 256 km en 3 jours. Il s'agissait toutefois de son premier tour du lac Saint-Jean et avoue avoir sous-estimé le dénivelé du circuit. Et on joint maintenant France Geoffroy, directrice artistique de la compagnie Corpuscule Danse. Bonjour, Madame Geoffroy.
Bonjour.
Alors, c'est une première pour moi de vous parler de Corpuscule Danse. Qu'est-ce qui spécifie, qu'est-ce qui caractérise Corpuscule Danse?
En fait, Corpuscule Danse, c'est une compagnie de danse intégrée. Le mot le dit, intégrée. Donc, l'idée, c'est de réunir des danseurs avec et sans handicap. Intégrer vient évidemment de l'intégration des personnes handicapées dans la société, mm-hmm. et ça s'applique à la danse. Donc,
des danseurs qui vivent avec un handicap et des danseurs qui ne vivent pas avec de handicap sont réunis sur une même scène.
Absolument.
Et là, vous présentez cet été 3D Diversité, un projet de médiation culturelle. Pourquoi ce terme plutôt que spectacle?
En fait, c'est que la médiation culturelle, c'est l'idée d'amener des gens de la communauté dans des projets artistiques, mais qui sont encadrés par des professionnels de la danse.
Oui.
Donc, c'est un terme qui est très utilisé, là, c'est un terme courant mm-hmm. de nos jours en culture, mais c'est vraiment aussi pour spécifier que c'est un travail qu'on a créé au fil des semaines avec 16 ateliers chorégraphiques, mm-hmm. et c'est un projet aussi de découverte de style de danse avec 2 chorégraphes, Roger Sina, qui est un chorégraphe qui fait de la danse indienne contemporaine, et Zab Manbungu, mm-hmm. qui, elle, fait un travail en danse africaine et contemporaine. Alors, j'ai vraiment lancé le défi à ces chorégraphes-là de travailler avec un groupe de danseurs amateurs. Et c'est ça, on les encadre.
Et en quoi consistaient ces ateliers chorégraphiques inclusifs?
En fait, c'était vraiment parce que moi, je mets sur pied différents projets.
Oui.
Des fois, c'est juste des ateliers qui n'ont pas une finalité d'un spectacle. D'autres fois, c'est moi qui chorégraphie. Donc, c'est vraiment de la danse intégrée pure. Quand je dis là, de la danse intégrée, c'est qu'on part de la gestuelle de nos élèves et de l'expression corporelle mm-hmm. qui est générée dans nos ateliers exploratoires. Puis ça part d'eux. Alors que maintenant, dans ce projet-là actuel, on part vraiment des principes de la danse indienne, des principes de la danse africaine. Et moi, mon défi à travers cette expérience-là, c'est d'avoir adapté ces gestuels-là pour les handicaps, les personnes qui sont dans la distribution, là, dans le casting.
Est-ce que ça a été difficile?
Je vous dirais que c'était un défi... un très grand défi, oui. parce que, en fait, quand on travaille au niveau professionnel, on va créer à partir des possibilités, des capacités des gens qui sont devant nous. Mm-hmm. C'est plus personnalisé. Alors que là, d'aller chercher des chorégraphes dans des styles de danse très typés, ben, si on parle, par exemple, de la danse africaine, c'est beaucoup le rythme. Hein?
Ouais.
C'est le rythme dans les mains, le rythme dans les jambes, tenir le rythme. Alors, des fois, le rythme était très rapide. Il fallait que je diminue le rythme pour que les gens qui sont en situation de handicap puissent
suivre.
Suivre et ouais. aussi qui ne courent pas. Là. Puis
non.
c'était en plus, moi, je pense que c'est un défi, pas juste pour les personnes handicapées, mais pour tout le monde. Mm-hmm. Parce que c'est un apprentissage rapide d'un style de danse qu'ils sont pas habitués. Mais au final, je suis très contente de ce projet-là parce que c'est vraiment un échange. Hein?
Oui.
Autant les chorégraphes apprennent, autant les spécialistes de la danse intégrée s'adaptent. Donc, c'est vraiment un... Moi, j'ai adoré faire ce projet-là parce que justement, tout le monde était en apprentissage, tout le monde était en ajustement.
Oui.
Et au final, ben, ça donne vraiment... Il y a beaucoup d'amour, je vous dirais, dans le spectacle et de passion et de d'adaptation.
Et on va pouvoir se rendre compte en y assistant à ce spectacle-là qui est présenté en juin?
En fait, il y a des dates en juin
mm-hmm.
et des dates en juillet.
Et c'est gratuit.
Oui, c'est gratuit. En fait, c'est un spectacle dans l'espace public. Donc, c'est dans différents parcs de Montréal.
Oui.
Ce qui nous a permis de réaliser ce projet, c'est vraiment une subvention de l'arrondissement Ville-Marie et une subvention des caisses des jardins. Et puis, ça nous permet là, vraiment de faire une petite tournée dans les parcs montréalais.
Alors, j'ai ici le 7 juin à la place Émilie-Gamelin, 1500 rue Berry, un très bel endroit. 14 juin, UQAM, au 320 Sainte-Catherine, dans le hall du registrariat. Vous allez dans différents endroits extérieurs et intérieurs?
Oui, bien en fait, la seule date qui est à l'intérieur...
C'est le 14.
C'est le 14 parce que c'est un école d'été
oui.
qui parle d'émancipation. Puis
j'ai une entrevue là-dessus hier, droit, citoyenneté, handicap. Là.
Voilà, ouais, ouais, c'est ouais. en plein ça. Puis ensuite, on poursuit la tournée plus en juillet. On a le Square Cabot. Je pense que vous avez les dates devant vous, si vous voulez continuer.
Bien, moi, j'ai le 7 et le 14 juin, mais pour avoir toutes les dates, moi, j'invite les gens à aller à corpusculedanse.com. Puis, de toute façon, je vais avoir l'occasion d'en reparler dans mes interventions. Parce que là, j'ai pas toutes les dates au grand complet, mais on va vous suivre en juin et ben, tout l'été. Vous êtes combien de oui. danseurs? Il y a combien de danseurs qui participent au spectacle?
Il y a 14 interprètes qui participent au spectacle.
Bon, on ira vous voir. France Geoffroy, directrice artistique de la compagnie Corpuscule Danse, un grand merci pour l'entrevue puis passez un bel été.
Merci à vous et un bon été à vous
merci.
Également.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Une personne en fauteuil roulant est morte après une collision avec un train survenu samedi à Chilliwack, en Colombie-Britannique, selon la Gendarmerie royale du Canada. C'est dans le site Internet de Radio-Canada Colombie-Britannique, Yukon, qu'on a trouvé cette nouvelle. L'accident s'est produit à un passage à niveau réputé dangereux. Une personne ayant tenté de secourir l'homme qui se déplaçait en fauteuil roulant électrique a aussi été blessée. Ses jours ne sont toutefois pas en danger. Selon Transport Canada, deux personnes sont mortes au passage à niveau de la rue Broadway entre 2001 et 2015. Cette jonction est gérée par le Canadien National. L'entreprise ferroviaire a indiqué qu'elle collaborait à l'enquête de la police. Message pour les usagères et usagers de l'INLB, avis de convocation et ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle des usagers. Il nous fait plaisir de vous convoquer à la prochaine Assemblée nationale, la prochaine Assemblée générale, dis-je bien, annuelle des usagers de l'Institut Nazareth et Louis Braille, qui se tient ce soir, 18h à 20h30, à la salle Victor Rousselot, troisième étage, située au 1111 Saint-Charles-Ouest à Longueuil. Un léger goûter vous sera offert à compter de 17h. À 18h, vous pourrez prendre connaissance des activités réalisées durant l'année, adopter le rapport annuel et le rapport financier 2017-2018 et élire trois membres au sein du comité des usagers de l'INLB. La date limite pour s'inscrire au concours de création littéraire Braille d'INCA 2018 arrive à grands pas et nous souhaitons encourager tous les élèves aveugles au primaire ou au secondaire à y participer. Le concours de création littéraire Braille est un concours pan-canadien organisé depuis 1997 dans lequel les participants sont invités à composer un poème ou un récit en Braille. Les gagnants du concours recevront un certificat en Braille ainsi qu'un montant variant entre 25 et 200 selon le prix remporté et leur âge. Les textes des gagnants seront également publiés sur le site Internet d'INCA. Pour participer, les étudiants doivent remplir un formulaire via le site d'INCA et remettre leur texte avant le 31 mai 2018. Ce concours a pour but d'encourager les enfants aveugles à écrire et à utiliser le braille, ce qui est primordial pour développer leurs compétences en orthographe, en grammaire et en ponctuation. Et la ville de Paincourt a récemment adopté son plan d'action à l'égard des personnes handicapées dans le but de mieux connaître les besoins de ces personnes handicapées et d'élaborer prochainement une planification triennale. La ville organise une consultation. Toutes les personnes vivant avec un handicap ou les parents d'enfants vivant avec un handicap sont invités à venir se prononcer sur divers sujets touchant directement la municipalité. La consultation aura lieu le 5 juin prochain à 17h30 et un goûter vous sera servi. Un grand merci à mes invités, Yannick Brouillet, directeur général de Fibrose Kystique Québec, et France Geoffroy, directrice artistique de la compagnie Corpuscule Danse. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson à la recherche et Jean-Sébastien Laliberté à la technique. Ici Hélène Denis qui vous dit merci d'avoir été à l'écoute des paractualités de ce 29 mai. Je vous souhaite une belle journée et j'espère vous retrouver demain.